Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Et c'est ici, en ce vendredi 2 juillet de cette année 2021, que les Athéniens s'atteignirent. S'atteignirent, j'ai bien dit, pas se teignèrent. Les Athéniens étaient bruns de nature, et sauf à vouloir jouer dans Kaamelott, ils n'avaient aucune raison de se peroxyder les crins. Non, aujourd'hui, c'est une double raison de vous sortir un pop-pop d'anthologie. C'est la dernière de notre saison 4, c'est la dernière de notre semaine spéciale Alexandre Astier, et pour couronner le tout, ce n'est pas seulement un roi que nous recevons, mais un roi accompagné de sa reine, et pas pour jouer aux échecs, c'est moi qui vous le dis. Arthur, Pendragon et Guenièvre sont nos invités aujourd'hui pour parler de ce qui a provoqué tout ce barnum médiatique. La sortie le 21 juillet de Kaamelott, premier volet, le film que tout le monde attend depuis presque 10 mois maintenant. Comme une illustration parfaite de cet Alexandrin de Corneille qui disait « Et le désir s'accroît quand les faits se reculent, car ce n'est pas régner qu'être deux à régner. » Sage parole que n'aurait pas démenti Arthur, et que nous confirmerons sans doute Alexandre et Anne Girouard, sa reine de cour, à défaut d'être sa reine de cœur. Enfin bon, ça nous fait tout drôle de nous arrêter ce soir alors qu'eux entament la dernière ligne droite vers une sortie plus attendue encore que l'éventuelle naissance d'un 8e héritier pour le prolifique individu à l'origine de tout ce pataquès. En ce 2 juillet de cette année 2021 et d'une saison qui termine bien mieux qu'elle n'a commencé, c'est parti.
France Inter.
Et à mes côtés pour ce dernier numéro de la saison 4 de Popopop, ma reine, non pas d'un jour, mais d'une saison.
L'hiver. C'était ça qu'il fallait dire, non ?
Winter Ascom. Bonjour, Charline. Très jolie la couronne. Hein.
Je vous remercie.
Féliciterai votre dentiste, mais c'est bon, je pense que vous pouvez refermer. On l'a tous vu. Et avec nous, aujourd'hui.
Le ça faisait longtemps.
Roi est là. Bah voilà autre chose.
Bonjour Guenièvre, bonjour Arthur.
Bonjour Monsieur Descoules.
Bonjour Alexandre Astier, bonjour Anne Girouard. Alexandre, vous avez élu résidence depuis lundi dans la Maison Ronde, du moment que c'est rond. Ça vous convient, c'est
et,
ça
et qu'on me met un bout de plumard, vous savez, je suis pas le gare-gardant, hein. Franchement, il suffit que...
Ouais. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes venu faire le tour du proprio à maman?
Oui, parce que je sais pas, on sait jamais, un jour que t'as besoin de racheter la cabane, tu sais, c'est quand même plus pratique.
La maison s'y était là, madame?
Tout à fait, tout à fait.
Elle est plutôt jolie, elle est
oui,
là,
très jolie.
Aimablement décorée.
Oui, oui, tout à fait.
Après, est-ce que les gens savent que c'est facile de s'y paumer?
C'est très facile de s'y paumer. Vous savez qu'il y a des oubliettes ici.
On tombe sur des squelettes et tout.
Voilà,
des
matières, vous ne pouvez pas savoir. Mais... Bon, installez-vous sur vos trônes respectifs. Aujourd'hui, nous allons célébrer un événement pop de première importance, Kaamelott, le film, à moins de 3 semaines de sa sortie. Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué parmi les pop événements du moment. Est-ce Michel Polnareff, auteur de cette déclaration sur Twitter, mon pubis me manque.
What ?
Non, alors avant de se reprendre et d'expliquer, je le cite, je voulais dire mon public me manque. Encore un coup de ce correcteur automatique et moche colère.
C'est un problème de dextérité en fait.
Non, là où c'est moche, c'est que les correcteurs automatiques normalement corrigent selon ce que vous avez l'habitude d'écrire. Donc j'aimerais bien voir l'historique du téléphone de Polnareff.
Deuxième proposition.
Où est-ce pour revenir à la thématique royale du jour, Charlène et Albert II de Monaco qui ont célébré hier leur 10e anniversaire de mariage et à cette occasion deviennent les stars d'une série mise en ligne par le Palais. Une série avec des images d'archives et 7 BO.
Ou bien est-ce cette info du magazine Version Féminin qui nous apprend qu'à 95 ans, la reine Elisabeth II utilise une épée pour couper ses gâteaux récemment au G7. C'est un exercice particulièrement difficile, évidemment, lorsqu'il s'agit de jelly.
Alors, est-ce qu'elle... Je peux poser une question?
Bien sûr, c'est le moment où jamais.
Est-ce qu'elle prend de l'élan de loin et qu'elle arrive...
J'espère. Encore que ça peut être dangereux.
Bon, moi, c'est mon truc préféré, ça.
La reine Elisabeth qui coupe ses gâteaux à l'épée.
Absolument. Anne, peut-être.
Bah oui, mais alors il m'a piqué parce que j'allais dire la même chose.
Évidemment.
Et puis on va rester dans la thématique une épée, Excalibur.
La reine, évidemment.
Voilà. Donc
au G7.
La reine.
Au G7, oui. Oui, oui.
Ah, il y a de la classe. Il y a du style quand même.
Il y a eu de la classe aussi.
C'était une grande épée.
C'est une immense épée, oui, plus grande que la reine. Et vous, votre pubis vous manque aussi, Alexandre?
Alors,
votre public, je veux dire, pardon.
Mon public me manque. Bah, c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas allé sur scène. Mm-hmm. J'aimerais bien y retourner un de ces jours, mais non, parce que c'est vrai que les succès ou les échecs télévisuels ou cinéma, c'est un coup de fil en fait. Hein.
Eh oui.
On vous dit combien vous avez fait, combien vous n'avez pas fait. Mm-hmm. C'est inquiétant, c'est rassurant. Mm-hmm. C'est pas la scène.
C'est pas la
scène. C'est pas la scène.
C'est pas la scène. Ah non, on est d'accord.
Ça, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance de jouer il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était un peu... J'ai une renaissance. Mmh. Ça manque beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Le public, effectivement.
Bon. Et le public revient dans les salles et les spectacles reprennent. Voilà la bonne nouvelle. Alors, la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop au Pop au rythme des corps de Kaamelott, juste après Black Myself. C'est un morceau signé Améthyste, Kia. Self Améthyste Kia, c'est un morceau qui fait déjà partie de la BO de Mon été. Et cet été, il n'y a pas que la musique qui sera importante. La preuve avec l'affiche que vous venez de dévoiler, Alexandre Astier, celle du premier volet de Kaamelott. Alors Charline, j'aimerais lever ma corne pleine de rouquins à ce film, mais avant, pouvez-vous nous en faire le pitch comme on disait à l'époque pré-médiévale?
Alors pour une fois, je suis absolument ravie de vous faire le pitch. Il est écrit en gros sur l'affiche, deux points, ouvrez les guillemets, il revient pas pour trier les lentilles. Alors bon, bah, serait-ce abusif, Votre Altesse, par souci de ne trop point spoiler, de vous demander de développer... Non, apparemment, c'est pas possible. Eh bien, bande annonce, alors.
Où est Arthur Pendragon?
Un gars pas bien grand, blanc comme un cul.
Oh, ça me dit rien.
10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous.
Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis.
Mon Dieu.
Par tous les saints.
Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever.
Le fils Pendragon est de retour. Ah ben qu'ils viennent.
Il faut tuer Arthur.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour »
Des fois que vous redeveniez roi.
Quoi?
Oui, c'est ça.
C'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça.
Élevons nos cornes pleines à ce premier volet. Vous ne venez donc pas pour trier les lentilles, vous non plus, Anne ?
Pour trier les lentilles. Ouais.
T'as déjà trié des lentilles ?
Non.
En vrai, comme à l'ancienne, avec les cailloux d'un côté,
ouais,
les lentilles.
Non, j'ai jamais fait, oui. C'est
ça,
vrai.
Trié de lentilles ?
Non, j'ai jamais trié. Non, j'ai fait des lentilles.
Oui. Sans les avoir triées.
Ce qui va passionner, je pense, les auditeurs. Non, ouais, donc, je fais régulièrement des lentilles avec, voilà.
Mais il n'y a pas besoin de les trier.
Non, il n'y a pas besoin de les trier, voilà.
Qu'il n'y ait pas de cailloux dedans. Alors, le film est très attendu. Dès que vous lâchez une bribe d'infos, Alexandre Astier, les réseaux s'enflamment. C'est normal. Les fans attendent depuis longtemps, très longtemps, car il s'est écoulé 10 ans entre la fin du livre 6 de la série télé et Kaamelott. Premier volet. Et vous les torturez, ces fans, en les faisant languir. Seriez-vous un tantinet cruel, voire sado, Alexandre Astier ?
Non, bah non, mais non. C'est très agréable et très flatteur et très. Je suis chanceux d'être attendu sur quelque chose. Seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, les choses arrivent quand elles arrivent. Voilà. Et en plus de ça, c'est bien qu'il y ait du temps qui ait passé depuis la fin de la série. Puisqu'Arthur n'est plus là, puisque Lancelot, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, ce tyran, que tout le monde s'organise en résistance, en collaboration, en attentat. En...
Ah, vous l'avez joué en temps réel ?
Oui, on l'a fait sans le tourner. Comme ça, on était un peu plus dans le mood.
Tout s'explique. Anne, vous qui fréquentez cet individu plus intimement que nous, qu'en pensez-vous ? Il a ce côté un petit peu...
Sadique, vous voulez dire ?
Ouais, sadique, cruel. Enfin, il aime bien faire lanterner le
Pégu. Sadique, cruel. Alors, je parle d'Arthur ou d'Alexandre ?
Réfléchis pas trop quand tu dis moi ce truc-là.
Mélangez-nous les deux.
Non, pas du tout. Bah non, sinon il a non. Alors, en tout cas, Alexandre n'a rien de. Mais Arthur non plus. Derrière, n'a rien de sadique ni de cruel. Non, vraiment pas. Non, c'est plutôt comme ça contre toute. Des apparences, quelqu'un de doux. Voilà.
Bon, enfin, écoutez, ça valait le coup d'attendre. Le premier teaser du film, vous l'avez dévoilé ici même. Souvenez-vous, Alexandre.
Tout le monde m'a demandé des suites d'un certain film que les gens attendent. Je vais vous laisser un petit truc qui concerne ça. Je vous laisse une petite fiole de sable. Okay, il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais pas vous dire d'où il vient, mais je vous laisse un petit bocal de sable que vous pourrez ranger dans votre cave et puis on en reparlera plus tard.
Et effectivement, c'était vrai, il y a du sable.
Il y a du sable, il vient du sultanat d'Oman, ce sable, vous l'avez gardé.
Bien sûr.
Il est dans vos archives, oui, ça c'est très bien.
Un élément de plus du mystère peut-être à nous dévoiler, il y a de l'eau aussi peut-être ?
Il y a de l'eau, il y a du sable,
il y en a.
Il y a de la neige.
Oui, il y a du ciel.
Il y a du ciel, on a pris du ciel, oui. Ça fout, c'est le genre de truc qui coûte pas cher. Hein. De toute façon, il est là, donc ça fait des jolis plans pour pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il peut y avoir
De l'obscurité.
Il y a de l'obscurité, il y a du château.
Il y a du château.
On a du château.
On voit enfin
il y a du souterrain.
Le château.
Il y a du souterrain, absolument. Il y a de la grotte.
Ouais. Et du costume.
Et du costume. Et
spectaculaire même.
On en a déjà dit pas mal. Hein.
Est-ce qu'Alexandre, vous avez toujours eu la certitude que Kaamelott était fait pour le cinéma ? Ou est-ce que c'est venu en cours ?
Oui, non, j'ai toujours eu envie. Je me suis jamais trop posé la question. Et après l'avoir fait, en fait, je me rends compte que les personnages de comédie gagnent beaucoup à être dans de grands environnements. Parce que du coup, si vous prenez tous vos efforts pour faire du grand... les petits personnages au milieu sont d'autant plus petits et que le contraste entre la comédie et le décor, l'environnement et tout ça, et puis le fait d'avoir un monde plus vaste avec des déserts, des frontières et tout ça, ça me fait évoluer ces personnages dans un monde plus périlleux, plus dangereux pour eux. Et en fait, c'est presque plus simple de raconter une histoire comme ça.
Anne, Alexandre, je vous remercie d'autant plus d'être avec nous aujourd'hui que vous sortez de 3 jours de press junket, autrement dit de 3 jours où les médias vous ont pressé un maximum de junket. À force de parler du film, de répondre à 1000 questions, avez-vous découvert quelque chose de nouveau sur l'entreprise elle-même en parlant ? Anne ?
Est-ce que j'ai découvert quelque chose en parlant ? Oh là 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 là, alors...
Est-ce qu'on t'a posé des questions auxquelles tu t'attendais pas, par exemple ?
Non, non.
Soumise à des analyses auxquelles vous aviez peut-être pas pensé l'un comme l'autre.
Moi, j'ai été un peu. Si, ouais, on m'a demandé si. Est-ce qu'on t'a demandé si on était tendu ?
Ah oui, ça, on m'a beaucoup demandé alors, comment se passe, que c'est le fait que, mais vous êtes, Arthur, il est quand même très strict, donc vous travaillez très sérieusement, donc c'est comment, donc, je me suis dit à un moment, mais est-ce que les gens pensent que, on a fait ça dans une austérité la plus totale. Donc, non, j'ai quand même un peu rectifié en disant qu'on s'amusait aussi, voilà. Ça m'a frappé. Ça, ouais, voilà, quelque chose qui m'a frappé. Après, qu'est-ce que on m'a demandé?
Non, parce que l'intérêt dans ce genre d'entreprise, c'est de ne pas trop lever le voile.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Ça
serait mieux. Est-ce que vous avez trouvé la bonne mesure entre ce que vous vouliez bien raconter et ce que vous ne vouliez pas spoiler?
Oui, je crois.
Les deux.
On peut dire les deux.
Bah, je pense que ce qui compte, c'est qu'il reste des surprises. Voilà, là, il y en a plein. Il y en a tout le long. C'est pas parce qu'on donne les grandes lignes que les surprises n'ont plus leur place. Donc, tout va très bien. Il reste encore des kilos de trucs qu'on n'a pas dit. Donc, tout va bien.
Oui, c'est une certaine délectation de dire qu'il y a quelque chose d'incroyable et de ne pas le dire. C'est agréable. Voilà.
Alors, moi, ce que je peux vous révéler en tant que Dagonais, c'est que dans ce premier volet, Anne Girouard est la reine Guenièvre. Charline, pouvez-vous nous dresser le pop portrait express de cette reine dont le destin tragique me semble au moins aussi stimulant que celui de Sissi, l'impératrice, pas le président d'Égypte, une démocrate s'il en est aussi. Enfin, en même temps, je ne suis pas Stéphane Bern. Et s'il vous plaît, racontez-nous.
La reine, ma reine, si vous me l'autorisez, Guenièvre, fille de Léo Dagan et Célie, dont l'union avec Arthur est quelque peu arrangée et permet de nouer une alliance Bretagne-Carmélide, une femme assez pure, naïve peut-être, spontanée, sans filtre, quant à ses idées parfois saugrenues, il faut le dire, et rapidement sujette à l'ennui. Alors, il faut dire que monsieur son mari ne lui porte que peu d'intérêt quand il n'est pas en train de la maltraiter, plus ou moins gentiment. Elle est pourtant une incroyable alliée pour son mari, mais bon, vous savez comment sont les garçons, ingrats. Lancelot en est fou, mais comme il l'est au propre comme au figuré, c'est compliqué. Bref, elle est une femme formidable, avec cependant une phobie de point, ouvrez les guillemets. Ils n'ont pas de bras, les oiseaux, c'est affreux, j'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant, ça n'a aucun sens. Anne Girouard, avez-vous facilement retrouvé le personnage, quelques 10 ans après l'avoir incarné pour la dernière fois?
Oui, c'est vrai que j'avais une légère appréhension juste avant de tourner, en me disant, mais est-ce que je... C'était quand même il y a 10 ans, donc c'est pas rien. Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'on va retrouver le truc? En fait, c'est ça. Est-ce qu'on va retrouver le truc? Mmh. Et puis non, en fait, c'est vrai que dans la seconde, on a commencé... En plus, c'était une séquence avec Alexandre. J'ai eu l'impression que on s'était quitté la veille, quoi. Non, ça a été assez facile de retrouver. Et puis c'était même un peu émouvant parce que il y a quand même 10 ans dans une vie, c'est pas rien, en fait. Donc c'est la même chose, mais avec 10 ans de plus. Donc, moi j'ai pris 10 ans, ça se voit. Tu as pris 10 ans, Alexandre, ça se voit un petit peu. Légèrement, très légèrement, mais pas beaucoup. Mais c'est assez, moi j'aime bien ça. Je trouve ça chouette, en fait.
On les a tous pris, hein.
Dites pas ça.
si.
Et dans le film, on retrouve des historiques de la série, Lancelot, Perceval, Caradoc, Merlin, Léo Dagan, Dagonet, etc. Et puis quelques petits nouveaux, Orsa, Sting, Alzaga, Guillaume Gallienne. Est-ce qu'il était aisé d'intégrer de nouveaux personnages dans une saga qu'on compte déjà un sacré paquet?
Oui, ça fait un frais incroyable. Mmh. Ça montre que ce monde de Kaamelott est vaste, qu'il y a plein de gens de partout, qu'il y a un monde entier, qu'il y a des chasseurs de primes, qu'il y a des jeunes gens. Il y a pas mal de jeunes gens dans ce film-là, des nouveaux.
Qui sont assez formidables, d'ailleurs, je dois dire.
Qui sont vachement bien et que j'ai beaucoup d'émotions à diriger parce qu'en fait, et puis je crois que c'est des personnages qui m'ont plu à faire parce que c'est des gars qui vivent dans la légende d'Arthur, mais ils l'ont jamais connu, en fait. C'est juste qu'ils sont là, ils espèrent qu'on va renverser Lancelot, ils attendent qu'Arthur se pointe, mais ils sont tout frais. Et mon Arthur, il est pas tout frais. Et du coup, ça fait un contraste.
François Rollin, le roi Lot, nous a confié ici ne pas avoir reconnu Sting, tout simplement, car il ne connaissait pas. Alors rassurez-moi, Anne, vous n'avez pas vécu ce genre de situation à la machine à café pendant la pause entre deux scènes avec Christian Clavier, par exemple?
Non. Non, mais je disais que justement la vie est parfois mal faite parce que Sting est une espèce d'idole de mon adolescence. Ouais. Pour le coup, je l'aurais reconnu et malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance de le croiser, donc voilà.
Vous sentez le reproche un petit peu?
Je le sens très fort.
Oui, très mérité, je suis d'accord. Elle n'avait pas envie non plus que
la reine crée. Ouais, enfin,
alors, Anne-Alexandre, c'est la première fois que nos noms, je parle du mien et celui de Sting, hein, sont associés sur une affiche. Et heureusement que je ne suis pas à la batterie, parce que j'aurais pu faire la différence avec Stewart Copeland. Mais comme Sting fait partie du film, j'aimerais qu'il fasse partie de cet ultime numéro de cette semaine spéciale. Alors, pour l'occasion, je vous propose d'écouter son morceau Russians, mais dans sa version live à Berlin en 2010 avec orchestre philharmonique. Ça, c'est pour faire plaisir au Astier chef d'orchestre.
Avec un bout de Prokofiev pour commencer.
Ouais. Bravo!
Such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There isn't no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the children too. There isn't no historical precedent to put the words in the mouth of the president. We got
Sting, Russians, la version avec orchestre philharmonique, un choix à approuver.
Oh mon Dieu.
Pas mal.
La vache. Et j'espère que l'arrangeur a eu le droit de prendre deux Twix à la table régie. La vache. Quel claque.
Ça a de la goule.
Ah ouais, ouais, l'autre il arrange comme un taré, hein. Si jamais vous savez qui c'est.
Bien, car nous sommes en compagnie d'Alexandre Astier et d'Anne Giroir dans ce pop-up royal. Deux invités qui ne sont pas revenus ici pour trier les lentilles.
Alexandre, vous avez souvent expliqué écrire, je cite, pour faire plaisir aux acteurs. Pour autant, est-ce qu'il y a un ou des personnages que vous avez un plaisir tout particulier à développer, à dialoguer, ou à l'inverse, un personnage qui vous donne plus de mal à appréhender ?
Pas tant, non, parce que bon, je suis un peu flemmard, donc je m'arrange pour que ce soit facile. Et puis, je crois que...
Il est un peu flemmard, hein,
Ça m'étonnerait.
C'est moi qui vous...
Non, mais c'est de la musique, c'est-à-dire que... En fait, il faut aimer entendre parler les gens, et puis il faut essayer de piger comment ils parlent, et piger comment ils aiment parler, ce qui leur va. Et après, je dis piger, je pense que c'est pas sémantique, c'est juste comme ça, mais quand je dis que je fais plaisir aux acteurs, je précise que je crois que c'est ce que les gens viennent voir, en fait, au théâtre, au cinéma. Ils viennent voir le plaisir, parce que c'est pas que du plaisir contemplatif, c'est un plaisir d'ingénieur, c'est un plaisir d'artisan de faire ces choses-là, et c'est ça qu'on vient observer, je crois.
Justement, vous, Anne, en tant que comédienne, qu'est-ce que la langue d'Alexandre Astier a de particulier ? En quoi son écriture est-elle différente ?
Différente de ce qu'on peut voir.
Proposer habituellement.
Il y a quelque chose d'extrêmement personnel, c'est-à-dire qui n'est pas formaté. Et ça, c'est assez rare. Ouais. Parce que, en tout cas, en ce qui concerne la télévision, c'est vrai que par moments, je lis des scénarios que j'ai déjà lus 50 fois. Et que, donc, je m'ennuie. Alors, c'est vrai que ce qu'Alexandre écrit, il y a quelque chose qui lui appartient à lui. Et en fait, pour un acteur, ça c'est très agréable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail en fait à fournir. C'est-à-dire que l'écriture est tellement forte qu'il y a juste à... Tout vient. Et puis avec évidemment le partenaire, il se trouve que c'est souvent lui, mais bon, j'en ai d'autres aussi dans Kaamelott.
Et... Tu dis, hein, si t'en as plein le dos, on fera
autre chose. Non, au contraire. Avec ce qui se passe aussi, mais c'est vrai que, en fait, moi, je suis là pour dire son texte. Et que, alors que souvent, c'est vrai que des fois, je fais des choses où je me dis, tiens, comment je pourrais changer ça pour que ça soit mieux ? Moi, je pourrais, parce que ça, personne ne dit ça comme ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Donc là, évidemment, c'est très confortable. Ouais. C'est évidemment un grand plaisir. Ouais. Et puis, ça me fait... beaucoup rire aussi, quand même, beaucoup rire. Je trouve qu'il, voilà, oui, c'est du talent, quoi. Voilà, c'est ça.
On l'a beaucoup dit et répété, Kaamelott, c'est un langage. Il y a énormément de répliques qui ont traversé la série pour arriver dans la vraie vie. Énormément de gens dialoguent en répétant des phrases de Kaamelott. Est-ce que vous, tous les deux, vous avez la même facilité à les garder en mémoire des années après que les fans qui parlent en s'échangeant des répliques ? Est-ce que le culte des fans est le même que le vôtre, en quelque sorte ?
Moi, on m'a souvent rappelé des répliques.
Ben oui.
C'est-à-dire, je suis souvent tombé sur des gens quand ils disent ça, quand ils disent c'est assez flatteur d'ailleurs, mais...
Vous comprenez pas ce qu'ils vous disent, en fait.
Pas tant, non. Mais je me suis dit, il va falloir que je le regarde, ce machin, de ces jours, ça a l'air bien, ça a l'air bébête.
Et vous, Anne, pareil ?
Bah oui, c'est pareil. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais vous savez... » Ah oui, alors j'ai souvent quand même un souvenir un peu loin. Ah oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. C'est vrai.
Moi, souvent reproché de te maltraiter.
C'est
pas on faux. M'a souvent reproché de
j'ai bien
dire...
Charline l'a rappelé encore tout à l'heure.
Et je me méfie un peu parce que vous savez que J.R. était détesté. De Dallas.
Ah oui, pas le photographe.
Il était détesté. On l'insultait dans la rue, on lui balançait des trucs et tout, machin. J'ai un peu peur de ça de temps en temps.
Ça vous pendait, si je puis dire.
Voilà.
Guenièvre, dans la série Kaamelott, ça ressemble à ça.
J'y connais rien, mais à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité ?
Mais ils n'ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens. Moi, une fois, j'ai pissé par la fenêtre.
Alors, Anne Giroir, est-ce que votre licence de philosophie vous a aidé dans la compréhension des textes d'Alexandre Astier ?
Est-ce que ma licence de philosophie...
Oui.
sûrement, inconsciemment, je sais pas. Il y a quelque chose, effectivement, de ce que je disais. C'est vrai qu'il a quelque chose de très musical. Ouais, il y a quelque chose de... Là, c'est vrai que j'ai réécouté... musical et donc, effectivement, qui passe pas forcément par le cerveau. Enfin, il y a quelque chose d'instinctif. Moi, je, jamais, par exemple, quand je découvre les textes d'Alexandre, je me dis, oh, tiens, je vais faire ça comme ça, ou comme ça. Ça vient tout ça. Il y a quelque chose. Ouais. Puis avec le rythme de l'autre, du partenaire, c'est très, très instinctif. Donc, je ne sais pas si ma licence de philo a... puis contribuer à mon interprétation, je sais pas, peut-être. Mais
ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, vous pouvez être tout à fait couillon dans le public et venir voir le film. Vous n'aurez pas de problème de compréhension de ça, en finalement, si je résume le truc.
Alors, j'ai compris aussi.
C'est
pas ça que j'ai dit.
Jetez-moi des petits cailloux si j'en dis trop, hein, surtout. Ouais. J'ai toujours peur de.
Pas de cailloux, mais.
On retrouve des petits bouts de bois, prenez ce qui vous tombe sous la main. Dans le film, on retrouve encore une fois Guenière dans une position pour le moins délicate, presque une position de princesse de conte de fées,
absolument,
dangereuse,
absolument.
Je pense à une en particulier.
Prisonnière, vous voulez dire prisonnière si vous voulez.
Voilà. Elle prisonnière. Est-ce que c'est pas ce qu'il a défini le mieux, Guenière ? C'est-à-dire que c'est un personnage qui vit presque dans une autre fiction que la fiction des autres.
Si, un peu. Je pense que le personnage de Guenière a conservé absolument toute sa naïveté et sa pureté. Et que du coup, elle est prête. Par exemple, elle est prête à l'optimisme, ce qu'Arthur a abandonné depuis longtemps. Elle est prête. Elle est prête à la volonté. Elle est prête à l'ambition. Elle est prête à plein de trucs. Sauf que bon, voilà, elle est avec un gars qui. Je voulais faire qui est pas dans son assiette quoi.
Non, il est pas dans son assiette. Non, mais c'est un rôle de femme assez incroyable.
Oui, c'est vraiment un rôle, qui est très attachant parce que c'est un personnage proche de l'enfance aussi. Il y a quelque chose, une détermination comme ça, une espèce de foi.
Le sens du sacrifice.
En quelque chose, oui. Et puis elle croit en. L'amour, ce qui peut paraître cucu pour plein de gens, mais il y a une vraie sincérité chez elle, je trouve, qui est louable, qui est touchante. Oui, moi j'aime bien faire ça.
Moi j'ai un souvenir assez en écriture. Je savais que dans la saison 5, Arthur allait partir à la recherche de sa descendance. Il allait parcourir la Bretagne en entier pour essayer de trouver des enfants potentiels. J'avais prévu un voyage assez solitaire. C'est assez au dernier moment, je me suis dit, il faut qu'il parte. Il faut qu'elle parte avec lui. Ça très beau que cette nana-là, elle va chercher des enfants qui ne sont donc pas les siens mathématiquement, mais elle s'inquiète pour lui, donc et du coup on a arpenté les plaines du Vercors tous les deux en marche, et c'était très bien.
Anne-Alexandre, j'ai la courbe d'audience sous les yeux, France Inter est toujours la première radio de France, mais à l'heure où nous parlons, elle devient la première radio de la communauté de Kaamelott, et les auditeurs vous ont posé 97 625 questions.
Alors, commençons par la une.
Vous répondrez bien sûr à chacun d'entre eux hors antenne, je n'en doute pas, mais en attendant, je lance ma roue, pas Charline, pour piocher une de ces questions au hasard.
Audio est fixe, quand même. Audio est fixe, il y a du pognon.
On ne recule devant rien ici. Alors, question de Malika Kiboy. Je cite Alexandre Astier pour faire un bon croque-monsieur, plutôt emmental ou cheddar, et quelle cuisson privilégiée, four, poêle ou appareil à croque ? Question culinaire, donc, mais vraie question, Alexandre.
Alors, moi, les croque-monsieur, j'ai l'habitude de les faire assez petits, parce que je trouve que c'est plus chaleureux de manger un petit croque-monsieur.
Ouais.
Je les coince dans un appareil qui fait gaufrier, et qui, donc, vous changez les plaques du gaufrier, et vous avez un joli petit croque-monsieur qui est dessiné. C'est-à-dire qu'il y a une trame qui s'imprime sur
forme
le pain.
De coquille.
Non, moi, c'est des carrés concentriques comme ça. Et donc, je mets pas le fromage dessus, parce que sinon, il serait cramé par la plaque elle-même. Ouais. Donc, je fous le fromage dessous, généralement. Je mets un peu ce que j'aime et j'aime la tome de Savoie, tome très blanche,
tome affinée,
absolument. Et du coup, ça fait des petits croque-monsieur comme ça que je coupe en deux. Et quand les enfants sont beaucoup plus petits, parce que j'en ai des tout petits aussi, je les coupe en quatre pour faire des tout petits triangles. Est-ce que la réponse vous satisfait ?
C'est une vraie réponse à une vraie question. Il reste 97 624 questions et vous aurez toute la nuit pour y répondre individuellement. Alexandre Astier, hier vous étiez avec la chanteuse et comédienne Jenny Beff, présente elle aussi au casting de Kaamelott, premier volet. Alors avant d'aller la découvrir au cinéma le 21 juillet, je vous propose de patienter en salle d'attente de la pop culture avec un extrait de son album Utopian Ashes. C'est un album réalisé avec Bobby Gillespie et son groupe Primal Scream qui sort aujourd'hui, et le morceau que je vous propose c'est Stones of Silence.
the heart.
Jenny Beth, Bobby Gillespie, c'était Stones of Silence, extrait de leur album qui vient tout juste de sortir aujourd'hui même. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors évidemment, pour les dernières minutes de cette semaine spéciale, Alexandre Astier, et à tout seigneur, tout honneur, c'est avec votre pop-list de juillet 2021 que nous conclurons cette ultime émission. Alexandre, Anne, vous êtes là, évidemment, la bienvenue hein, pour mettre votre grain de sel, n'hésitez pas, et c'est parti. Un livre, un film, une musique, un personnage de série, voilà ce que nous allons mettre dans notre catapulte ensemble aujourd'hui.
Avec plaisir.
Pour le livre, Alexandre, vous avez choisi Mythologie de Roland Barthes. Charline, c'est un recueil d'articles de Roland Barthes.
Absolument, 53 textes écrits par Barthes entre 54 et 56 au gré de l'actualité. Une exploration allant du monde où l'on catch à Poujade et les intellectuels, en passant par l'astrologie, l'art vocal bourgeois, le cerveau d'Einstein, la critique Nini, le Tour de France, comme épopée, ou encore les Romains au cinéma.
Et c'est les Romains au cinéma, justement. Précisément l'entrée qui vous intéresse dans ces mythologies. Alexandre, pouvez-vous nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Quelques lignes. Dans le Jules César de Mankiewicz, tous les personnages ont une frange de cheveux sur le front. Les uns l'ont frisé, d'autres filiforme, d'autres huppé, d'autres huilé. Tous l'ont bien peigné et les chauves ne sont pas admis, bien que l'histoire romaine en ait fourni un bon nombre. Ceux qui ont peu de cheveux n'ont pas été quittés à si bon compte et le coiffeur, artisan principal du film, a su toujours soutirer une dernière mèche qui a rejoint elle aussi le bord du front, de ces fronts romains dont l'exiguïté a de tout temps signalé un mélange spécifique de droit, de vertu et de conquête. Qu'est-ce donc qui s'est attaché à ces franges obstiné, tout simplement l'affiche de la romanité.
Extrait des mythologies de Roland Barthes, et cet article en particulier sur les Romains au cinéma. Les Romains au cinéma, c'est un sujet que vous maîtrisez un petit peu.
Avec Marlon Brando.
Avec Marlon Brando, d'ailleurs Barthes dit lui-même que Brando, le seul front latin du film, puis ça passe.
Ouais.
Sauf que les autres, avec, je cite aussi, leur bouille d'avocat anglo-saxon, ont un peu plus de mal, et il parle aussi de la sueur, parce qu'en fait, tous ceux qui fomentent suent. Comme si l'exercice de pensée devait se révéler par la sueur.
C'est vrai.
C'est une question que vous êtes posée, ça, au moment de représenter à votre tour des Romains au cinéma ?
De toute façon, quand vous prenez Roland Barthes, ça vous évite bien des clichés.
Anne, vous connaissiez le Alexandre scénariste, réalisateur, auteur, monteur, costumier, réparateur de catapultes grippées, mais connaissiez-vous le Alexandre Astier, lecteur ? Est-ce qu'il vous a donné envie de lire
sur le plateau, par exemple.
Lecteur, bon, oui, on a dû parler de livres, mais après, oui, sûrement.
Vous
on
a parlé.
On a parlé tellement de choses. Ouais. Ouais. Non, il m'a pas fait une liste de lecture.
Ah non, j'ai pas fait de pop-liste.
Vous auriez pu. Alexandre, pour la suite, nous allons dans l'univers de Bertrand Blier avec son film Les Acteurs. C'est un film que nous avons découvert en 2000, preuve que le bug de l'an 2000 n'avait pas eu lieu, mais ça, c'est une autre histoire. Charline, rappelez-nous de quoi ça parlait.
Des acteurs, de Depardieu à Belmondo, en passant par Samy Fray, Delon Piccoli, Gala Brucero et Josiane Balasco dans le rôle d'André Dussolier, se rencontrent, se racontent avec une certaine distance, voire une certaine ironie sur leur métier.
Il n'y a pas de metteur en scène dans ce film de merde ?
Bonjour madame. Je suis Jacques Villeray.
Je suis Jean-Pierre Marielle.
Je suis Michel Serrault.
N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, ce sont des acteurs qui jouent.
Depardieu boit.
Ah bah, Depardieu, d'accord.
Oh, qu'il est amusant.
Bon, alors écoutez-moi. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Vous renvoyez le scénario, et quand vous serez prêt, vous appelez mon agent.
Piccoli boit.
Bertrand Blier, en voilà un qui pose les bonnes questions sur les acteurs.
Absolument. C'est un film complètement dingue. Et c'est un film que je regarde très souvent. Je ne regarde pas forcément en entier, mais je le regarde très, très, très souvent. Tous les mois, je me fais un petit bout des acteurs. C'est un film qui fait beaucoup de bien. C'est un film qui a l'air en roue libre, mais rien n'est en roue libre chez Blier. Certainement pas les acteurs. Mais ça se voit qu'il écrit pour eux, ça se voit qu'il les aime. Ça se voit que... Et ces situations qui sont complètement dingues... mettre ensemble des gars qu'on aime tellement et de telle manière. Je raconte juste un truc qui est très très beau dans ce film. Il y a un moment, tous ces acteurs se disent que, en fait, finalement, le vilain dans l'histoire, c'est le public. Parce qu'ils sont chiants, c'est toujours difficile, parce que les critiques sont faites, etc. Donc, en fait, ils disent, on va trier le public maintenant. On va voir les bons et les mauvais. Ils se mettent en haut d'un escalator, dans un supermarché. Et ils se mettent en haut et ils disent à celui qui se pointe, comme ça, au hasard, ils disent, qu'est-ce que vous pensez de Patrick Devers? Et du coup, le premier dit ouais, c'était un grand artiste, quoi, c'était super. Le deuxième dit ouais, il nous manque beaucoup, tout ça. Il le laisse passer. Et le troisième dit ouais, j'en ai à foutre, moi, de ces drogués, de ces machins, etc. Ils le prennent, ils le descendent au sous-sol. Villeray déboulonne une grille d'aération et il s'apprête à le saucissonner dans le ventilateur. Voilà, je trouvais que quelle est la bonne question à poser à un public pour savoir si c'est un con ou pas. C'est que pensez-vous de Patrick Devers? Je trouve ça très beau.
Trier les lentilles, trier le public, enfin, tout ça se recoupe évidemment. Alexandre, c'est le moment pour moi d'enfiler mon armure pour la suite, ou plutôt mon déguisement trouvé sur Internet, car pour la série, vous avez choisi Goldorak.
Vous voulez le pitcher, Antoine? Un empire extraterrestre particulièrement guerrier, Vega, a servi à ravager la lointaine planète Defort. Le prince Defort a toutefois pu échapper au massacre et soustrayant au passage la machine de combat Goldorak, son pilote trouve donc refuge sur Terre. Il s'appelle Actarus et mène une vie de terrien ordinaire, travaille comme garçon d'écurie au ranch du Bouleau Blanc, jusqu'au jour où Vega décide de s'en prendre à la Terre.
Transfert!
Alors attention Alexandre, vous ne pouvez pas y échapper. Pour le générique, plutôt la version Bernard Minet ou la version originale japonaise?
Celle qu'on entend là.
Bernard Minet donc.
Non, Bernard Minet.
Ah, c'est pas Bernard Minet.
Non.
C'est Noam, non?
Non plus.
C'est pas Noam?
Non, c'est une autre version. Ah. C'est celle-là que j'aime bien, moi. Celle que vous
celle-là.
Mettez là. Ouais, absolument.
Ah, ok, mais je ne la connaissais pas. Comment se fait-il?
Bah si.
Ah bon? Aucune importance. Terminons, ne regardez pas comme ça. Terminons cette pop-liste avec le morceau que vous choisissez, Alexandre, et cette chanson. Ce n'est pas Bernard Minet cette fois-ci non plus, alors c'est celle-ci. Billy Cobham and George Duke Band, et le morceau c'est Hip Pockets, et dans une version live, avez-vous précisé?
Absolument, avec le tout jeune John Scofield qui est venu balancer le thème là-dedans. Ouais. Pour ceux qui aiment le funk, ce qui est mon cas, je sais pas si c'est pas le morceau papal, saint patron du funk, ça là. Je lance à vos auditeurs.
Le morceau papal du funk sale.
Je crois, oui.
C'est une définition, ça.
N'est-ce pas?
Oui.
Et puis après, vous pouvez modifier, si ça ne vous va pas. Moi, je
mettez un copyright, c'est bien, moi, je trouve.
Voilà.
Anne, ça vous convient? Morceau papal du funk sale.
J'ai l'impression qu'elle n'écoute pas trop de funk, sinon ça se termine.
Non,
oui. Oui, bah,
voilà,
je n'ai pas de commentaire particulier sur le funk. Ouais.
Ça vous plaît. Je résume Roland Barthes, Bertrand Blier, Goldorak et George Duke. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Ça donne ce mélange étrange.
Transfert.
Bonjour, madame. Je suis Jacques Villeray.
Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là.
Je suis Jean-Pierre Marielle.
Qu'est-ce donc qui s'est attaché à ces franges obstinées? Tout simplement l'affiche de la romanité.
Il n'y a pas de metteur en scène dans ce film de merde.
Là-haut, là-haut, traîne-moi dans l'espace.
Piccoli bois.
Ah, j'ai entendu des petits... Non, c'était des trompettes, c'est pas des corps, là.
Lesquels?
Là, ce qu'on vient d'entendre, là.
Là, j'ai pas eu. Faut me le remettre.
C'est un oiseau.
Mais non, c'était pas un oiseau. Non, c'était un cuivre. Bon. C'est un remix royal.
Ah, c'est toujours super bien fait chez vous, ces trucs-là. C'est toujours super bien fait.
Ghislain, Canal de Suez, t'as cassé mon coucou, Fontanus.
Voilà. Et ben, du coup, c'est ce que je me dis que ça marche. Et je suis sûr maintenant que je marche à l'oreille, parce que ça me convient très bien, tout ça. Je pourrais l'écouter, vous voyez, tel quel. Le mélange marche très bien.
C'est-à-dire que vous, Anne, vous auriez écouté un remix comme ça, on vous aurait dit, tiens, il y a ce type qui a ses sons un peu particuliers en tête, qui a envie de travailler avec vous. Vous auriez réagi comment, vous?
C'est drôle. Ah, j'aurais dit intéressant. Non, c'est éclectique, c'est varié. Non, si, c'est intéressant.
Ça vous aurait plu, oui.
Oui.
Et puis, il faut bouffer aussi. Hein. Quand on propose du travail, il faut essayer de voir un peu le bien partout.
Oui. Alexandre Astier, en parlant du morceau Hip Pocket, vous m'avez donné envie de l'écouter, de le réécouter. Je propose qu'on l'écoute tous ensemble. Enfin, si la reine Guenièvre nous donne son accord, bien sûr.
Bien sûr.
Ok, alors c'est parti.
That's a very great big hand for the George Duke Billy Cobham Band. Billy Cobham and George Duke Band.
We'll be right back.
Coupe un petit solo en plein milieu, mais c'est Ghislain Fontanus, évidemment, pour la dernière de l'année.
Hein. On va appeler Scofield et tu vas voir ce qu'il va te mettre.
On va pas déroger aux bonnes habitudes. Hip Pockets, The Billy Cobham, George Duke Band, c'était en 76 et aujourd'hui dans vos oreilles sur France Inter, grâce à Alexandre Astier, venu parler de Kaamelott, premier volet, avec Anne Girouard, pour terminer cette semaine spéciale. Alexandre, je résume, vous savez donc tout faire, on l'a décliné cette semaine, vous savez, écrire, jouer, diriger, composer, monter, etc., etc. Et je suis sûr que vous chantez aussi très bien, n'est-ce pas, Anne, qu'Alexandre chante très bien.
Oui, si tu m'avais appris une chanson.
Ah, c'est vrai.
Voilà.
Belle qui tient ma vie.
Tiens, regarde dedans. Ouais. Ça, dès qu'il y a les moyens de l'ouvrir, ça y est.
Non. Et moi, elle est jolie, cette chanson.
Moi, je dis, on terminerait cette semaine par un petit a cappella. Ça aurait de la gambette, quand même.
Et sur quelle chanson?
Ce que vous voulez.
Un a cappella?
Oui.
Putain. Alors, attends. Qu'est-ce que je peux vous faire comme a cappella? Il y a le, bon, il y a la pub Findus, mais on n'a pas le droit de faire trop de pub à la radio.
C'est dit, hein.
Non, qu'est-ce que je peux vous chanter?
Bah alors, vite fait, alors.
Est-ce que je peux vous chanter?
Parce que là, je vois que vous gagnez du temps.
Non. Par exemple, c'est une chanson que je chante énormément en ce moment. Il était un petit navire.
Qui n'avait jamais navigué.
Jamais.
C'est bon, on la connaît. Merci Alexandre Astier, merci d'être venu.
Ouais.
Cette semaine en notre compagnie. Merci Anne Girouard, merci d'avoir accompagné Alexandre pour ce dernier numéro. Dois-je le rappeler? Je pense que. Non, mais je vais le faire quand même. Kaamelott, premier volet, c'est le 21 juillet au cinéma. Et j'ajoute une info, vous pourrez découvrir le film en avant-première partout en France le 20 juillet. Tenez-vous prêt, la billetterie ouvre le 7 à 12h et sur kaamelott-séance.com. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Charline, non pas à demain.
Merci
ni à
Antoine, merci à tous les deux. Merci.
Rendez-vous à la rentrée. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui, à toute l'équipe de Pop, Ghislain Fontanus, notre réalisateur, Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production, Djoubaka, notre programmateur musical, et merci Aurélien Esvan, le rédacteur en chef de cette émission. Rendez-vous le 30 août pour la saison 5 de Pop, mais d'ici là, retrouvez dès lundi à 16h le temps d'un bivouac, l'émission de Daniel Fliévet.